Lupin ne bougeait pas. Un tel afflux de sang battait ses tempes qu'il avait collé ses poings contre elles et qu'il serrait de toutes ses forces. La fièvre remontait en lui, brûlante et tumultueuse, et sa volonté, exaspérée jusqu'à la souffrance, se contractait sur cette ennemie sournoise qu'il fallait étouffer instantanément s'il ne voulait pas lui-même être vaincu sans retour. Il murmura, très calme, « Dobrek est venu ici. »«
Dobrek ?»«
Pouvons-nous supposer que Madame Mergy se soit divertie à supprimer elle-même ces deux mots ?»« Dobrek est venu ici. »« Madame Mergy croyait le surveiller. » »« C'est lui qui l'a surveillé. »«
Et comment ?»«
Sans doute par l'intermédiaire de ce domestique, qui ne nous a pas avertis, nous, du passage à l'hôtel de Madame Mergy, mais qui aura averti Dobrek. » Il est venu, il a lu la lettre. Et par ironie, il s'est contenté de couper les mots essentiels.
Nous pouvons le savoir, interroger.
À quoi bon? À quoi bon savoir comment il est venu, puisque nous savons qu'il est venu. Il examina la lettre assez longtemps, la tourna et la retourna, puis se leva et dit « Allons-nous-en. »
« Mais où ? » ?»«
Gare de Lyon. »
Vous êtes sûr ?
Je ne suis sûr de rien avec Dobrek. Mais comme nous avons à choisir, selon la teneur même de la lettre, entre la gare de l'Est et la gare de Lyon, je suppose que ses affaires, ses plaisirs, sa santé conduisent plutôt Dobrek vers Marseille et la Côte d'Azur que vers l'Est de la France. Il était plus de 7 heures du soir lorsque Lupin et ses compagnons quittèrent l'hôtel Franklin. À toute allure, une automobile leur fit traverser Paris. Mais ils purent, en quelques minutes, constater que Clarisse Mergy n'était point à l'extérieur de la gare, ni dans les salles d'attente, ni sur les quais. « Pourtant, ronchonnait Lupin, dont l'agitation croissait avec les obstacles. « Pourtant, si Dobrek a retenu un sleeping, ce ne peut être que dans un train du soir. » Et il n'est que 7h30. Un train partait, le rapide de nuit. Ils eurent le temps de galoper le long des couloirs. Personne, ni Madame Mergy, ni Dobrek. Mais comme ils s'en allaient tous les trois, un homme de peine, un porteur, les accosta devant le buffet.
« Y a-t-il un de ces messieurs qui s'appelle Monsieur le Balu ?»«
Oui, moi, vite, que voulez-vous »«
Ah, c'est vous, monsieur. » « La dame m'avait bien dit que vous seriez peut-être 3, peut-être 2, et je ne savais pas trop. »«
Mais pour Dieu, parlez donc, quelle dame ?»«
Une dame qui a passé la journée sur le trottoir, près des bagages, à attendre. »«
Et puis, parlez donc, elle a pris un train ?»«
Oui, le train de luxe, à 6h30. Au dernier moment, elle s'est décidée qu'elle m'a dit de vous dire, et elle m'a dit de vous dire aussi que le monsieur était dans ce train-là. » Et qu'on allait à Monte-Carlo.
Ah, crénom ! Il lui fallut prendre le rapide, il y a un instant. Et maintenant, il ne reste plus que les trains du soir. Et il n'avance pas. C'est plus de 3 heures que nous perdons. Le temps leur parut interminable. Ils retinrent leur place. Ils téléphonèrent au patron de l'hôtel Franklin qu'on renvoya leur correspondance à Monte-Carlo. Ils dînèrent, ils lurent les journaux. Enfin, à 9h30, le train s'ébranla. Ainsi donc, par un concours de circonstances vraiment tragiques, au moment le plus grave de la lutte, Lupin tournait le dos au champ de bataille et s'en allait à l'aventure, chercher il ne savait où, vaincre il ne savait comment. Le plus redoutable et le plus insaisissable des ennemis qu'il eût jamais combattu. Et cela se passait 4 jours, 5 jours au plus, avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray. Cette nuit-là fut rude et douloureuse pour Lupin. À mesure qu'il étudiait la situation, elle lui paraissait plus terrible. De tous côtés, c'était l'incertitude, les ténèbres, le désarroi, l'impuissance. Il connaissait bien le secret du bouchon de cristal. Mais comment savoir si Daubrecq ne changerait pas ou n'avait pas déjà changé de tactique? Comment savoir si la liste des 27 se trouvait encore dans ce bouchon de cristal? Et si le bouchon de cristal se trouvait encore dans l'objet où Daubrecq l'avait d'abord caché? Et quel autre motif d'inquiétude en ce fait que Clarisse Mergy croyait suivre et surveiller Daubrecq alors que, au contraire, c'était Daubrecq qui la surveillait, qui se faisait suivre et qui l'entraînait avec une habileté diabolique vers les lieux choisis par lui, loin de tout secours et de toute espérance de secours. Ah, le jeu de Daubrecq était clair. Lupin ne savait-il pas les hésitations de la malheureuse femme? Ne savait-il pas, et Grognard et le Balu le lui confirmèrent de la façon la plus formelle, que Clarisse envisageait comme possible, comme acceptable, le marché infâme projeté par Daubrecq? En ce cas, comment pouvait-il réussir, lui? La logique des événements, dirigée de si puissante manière par Daubrecq, aboutissait au dénouement fatal. La mère devait se sacrifier et, pour le salut de son fils, immoler ses scrupules, ses répugnances, son honneur même. Ah, ah bandit, si je t'empoigne au collet, tu danseras une gigue pas ordinaire. En vrai, je ne voudrais pas être à ta place ce jour-là. Ils arrivèrent à 3 heures de l'après-midi. Tout de suite, Lupin eut une déception en n'apercevant pas Clarisse sur le quai de la gare à Monte-Carlo. Il attendit. Aucun messager ne l'accosta. Il interrogea les hommes d'équipe et les contrôleurs. Il n'avait pas remarqué dans la foule des voyageurs dont le signalement correspondit à celui de Daubrecq et de Clarisse. Il fallait donc se mettre en chasse et fouiller les hôtels et les pensions de la principauté. Que de temps perdu! Le lendemain soir, Lupin savait, à n'en pas douter, que Daubrecq et Clarisse n'étaient ni à Monte-Carlo, ni à Monaco, ni au Cap d'Aille, ni à la Turbie, ni au Cap Martin. Alors quoi? Disait-il, tout frémissant de colère. Enfin, le samedi, à la poste restante, on leur délivra une dépêche, réexpédiée par le patron de l'hôtel Franklin, et qui disait « Il est descendu à Cannes et reparti pour San Remo, hôtel Palace des ambassadeurs. Clarisse. » La dépêche portait la date de la veille. « Crébleu! Ils sont passés par Monte-Carlo! Il fallait que l'un de nous restât de faction à la gare! Ah, j'y ai pensé, mais au milieu de cette bousculade... » Lupin et ses amis sautèrent dans le premier train qui s'en allait vers l'Italie. À midi, ils traversèrent la frontière. À 12h40, ils entraient en gare de San Remo. Aussitôt, ils apercevaient un portier dont la casquette galonnée offrait cette inscription « Ambassadeur Palace » et qui semblait chercher quelqu'un parmi les arrivants. Lupin s'approcha de lui. « Vous cherchez Monsieur Le Balu, n'est-ce pas ?»«
Oui. » « Monsieur Le Balu et deux messieurs. »«
De la part d'une dame, n'est-ce pas ?»«
Oui, Madame Mergy. »«
Elle est dans votre hôtel ?»«
Non, elle n'est pas descendue du train. Elle m'a fait signe de venir, m'a donné le signalement de ces trois messieurs et m'a dit « Vous les préviendrez que l'on va jusqu'à Gênes, hôtel Continental. » »«
Elle était seule ?»«
Oui. »
Lupin congédia cet homme après l'avoir rémunéré. Puis se tournant vers ses amis,
« Nous sommes aujourd'hui samedi. Si l'exécution a lieu lundi, rien à faire. Mais le lundi, c'est peu probable. Donc il faut que cette nuit, j'aie mis la main sur Daubrecq et que lundi, je sois à Paris avec le document. C'est notre dernière chance. Courons là. »
Grognard se rendit au guichet et prit 3 billets pour Gênes. Le train sifflait. Lupin eut une hésitation suprême.
Non, vraiment, c'est trop bête. Quoi? Qu'est-ce que nous faisons? C'est à Paris que nous devrions être. Voyons, réfléchissons.
Il fut sur le point d'ouvrir la portière et de sauter sur la voie, mais ses compagnons le retinrent. Le train partait. Il se rassit. Et ils continuèrent leur poursuite folle, s'en allèrent au hasard, vers l'inconnu. Et cela se passait 2 jours avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray.